FM 93.
Bouchard en parle. J'ai pris un verre avec.
Et depuis qu'on a commencé cette formule-là, c'est les gens qui nous envoient des noms. On s'inspire de ce que vous nous envoyez à 25226. Et celle-là, c'est pas nécessairement le nom qui est retenu, qui est venu le plus souvent, mais les gens nous ont vraiment écrit « Hey, elle, elle va vous en donner du bon stock,
ben oui.
Elle va vous donner... » Parce qu'elle a pas la langue dans sa poche. Dans un monde politically correct, vous le savez, où il faut surveiller le moindre petit mot, petite phrase, elle a discapance. Puis ça les dérange pas, c'est à choc des fois, puis bon. Alors, Elisabeth est allée rencontrer nul autre que l'arbitre.
Oui, l'arbitre.
Maître Anne-France Goldwater. Mais c'est vrai qu'elle détonne beaucoup dans les paysages médiatiques québécois. Elle, là, quand c'est le temps de parler des chiens, quand c'est le temps de parler des situations de divorce, quand c'est le temps de parler de regarde, elle dit ce qu'elle pense.
Ah oui, vraiment. C'était très intéressant. J'ai passé 1h20 avec elle. Fait que
une
quand même, oui, elle a
avec
été
Anne-France Goldwater.
Oui, alors vous la connaissez, c'est une avocate en droit de la famille. Et pour les besoins de l'entrevue, je vais vous donner juste une information sur elle, parce qu'elle va en parler quand même un peu. Anne-France Goldwater a été élevée dans la communauté juive, mais elle est athée. Mais elle fait quand même partie de cette communauté-là. Donc, elle a été élevée à Montréal. Et si vous vous souvenez d'Anne-France Goldwater et de son passage à Tout le monde en parle, vous vous souvenez qu'elle, ça ne dérange pas du tout de parler d'argent. À l'époque de Tout le monde en parle, elle chargeait 660 $ de l'heure. Et c'est ça qu'on avait retenu de son entrevue. Il y avait eu beaucoup
alors,
d'articles qui avaient fait mention de ça.
Tu vois, encore là, ça, c'est une affaire que tu peux demander à tous les artistes. Il n'y en a pas un qui va répondre. Tu gagnes combien? Pas un va le dire, c'est secret. Elle a dit.
Elle dit. Et première 660
question. 660 $.
Attends, c'était ça à l'époque de Tout le monde en parle.
Oh!
Est-ce que ça a monté? Quel est votre rapport avec l'argent aujourd'hui?
On adore se moquer du fait que je charge très cher. Et pour tout le monde qui veut le savoir, je suis rendue à 755 $ à l'heure et je me considère une vraie aubaine à ce prix.
C'était 660 dans le temps que tout le monde en parle.
Oui, c'est ça. Et ouais, vous m'avez suivi et comment j'ai évolué dans ma tarification. Je viens d'une communauté et culture où on n'est pas complexé par rapport à l'argent. On n'est pas complexé par rapport aux relations hommes-femmes non plus. Alors moi, l'argent est un outil très important par rapport à ma vie privée. L'argent, c'est juste quelque chose que j'aime pour pouvoir bâtir mon bureau davantage, pour gâter ma famille. Mais autrement, si vous me voyez, je suis devant vous, je porte pas de bijoux. Je suis même rendue à un point où je porte pas de maquillage. J'ai plein de maquillage si je dois être à la télé. Puis comme vous savez, je ne bois pas, donc rien n'est dépensé sur l'alcool, drogue, cigarette. Ça m'a jamais, mais jamais intéressé dans ma vie. Alors, en bout de ligne, sur quoi peut-on dépenser? Il n'y a pas autant de choses que ça, mais mon bureau est très beau. J'aime que tout le monde soit gâté au bureau. J'offre des salaires très importants à tous mes employés. Il y a un spa ici au bureau pour que tout le monde puisse faire leur manicure, pédicure, cire, cheveux, maquillage. Tout le monde a fait, garçons et filles. Je dépense beaucoup sur le bureau. Tout le monde a un iPhone, tout le monde a une belle ordi. Je veux que notre qualité de vie au bureau soit vraiment primo, like vraiment premier calibre. J'ai toujours, pas forcément le vélo de l'année, mais disons 3-4 ans, je vais acheter un vélo haut de gamme parce que j'adore faire du vélo. Mais c'est à peu près ça. À vérité, je pourrais vivre avec beaucoup moins d'argent.
Donne envie d'aller travailler là, en tout cas.
Mais
spa. Oui, c'est ça, il y a un spa, là.
Mais c'est correct de ne pas être gêné sur l'argent.
Ben oui.
Il y a des clients qui payent ça. C'est parce qu'elle vaut.
Ben oui.
C'est parce qu'elle est bonne. Moi, j'ai déjà su un peu combien gagnaient les avocats qui nous ont déjà défendus ici, avec succès. Et il y a des gens qui me disaient, ouais, je disais ça du monde, on venait de gagner un procès. Là. Ouais, Butch, ça a dû coûter cher, hein? Ben, l'avocat doit gagner à peu près ça. Hey boy, c'est cher. Je dis, veux-tu te dire qu'est-ce qui est encore plus cher qu'un bon avocat? Un mauvais avocat. Ça,
c'est
ça
vrai.
Coûte cher en maudit, parce que quand tu perds ta cause, c'est plate.
Tu payes le prix. Et on a parlé d'argent. J'ai dit, vous dévoilez aisément vos tarifs comme ça.
Ouais.
C'est assez rare, les Québécois qui font ça. Pourquoi vous pensez que les Québécois sont aussi mal à l'aise de parler d'argent?
C'est extrêmement catholique. Ils disent un peu que ça, c'est une des raisons pour lesquelles, pendant des siècles, des Juifs ont gagné plus d'argent au sein des communautés en Europe. C'est parce que les catholiques, à cause de l'enseignement d'un Juif très reconnu qui s'appelle Jésus-Christ, moi je l'appelle Yoshka en hébreu, a enseigné de ne pas aimer, c'est l'amour de l'argent qui est la source de tout ce qui est malheureux ou malin dans la vie, blabla, c'est le bullshit, c'est exactement le contraire. Parce que l'argent représente tout ce qui réussit chez l'être humain, n'est-ce pas? Alors, et donc, nous avons développé une réputation d'être ceux qui étaient prêts à transiger pour l'argent, faire des transactions économiques, prêter de l'argent, emprunter de l'argent, prêter aux entrepreneurs, débuter des entreprises, et c'est très ancré dans notre culture. Alors, mais ce qui est également dans notre culture, tout comme chez les catholiques, c'est très important de faire de charité, de faire des dons. Vous allez voir dans notre communauté, on donne des dons extrêmement importants parce qu'on s'attend toujours à ne pas avoir de l'appui de la communauté chrétienne. Alors, il faut qu'on ait notre propre hôpital, nos propres services sociaux et j'en passe. Si je m'appelle un juif culturel, j'ai l'impression d'offenser ma propre communauté. C'est juste que je suis complètement athée. Je suis extrêmement athée. Je ne crois pas en Dieu. Mais ma communauté est ma communauté. Et ma communauté a su vivre en très grande liberté au sein de cette communauté au Québec. Et je me sens extrêmement libre et protégée dans ma liberté ici au Québec. Et je ne voudrais jamais vivre ailleurs.
Elle a raison sur ce qu'elle dit sur la communauté juive. Par contre, je vais défendre Jésus un peu. C'est un peu...
Yoshka?
On va défendre Yoshka, là. C'est plus l'Église catholique romaine qui a développé vraiment un discours peut-être anti-richesse. On a souvent fait dire à Jésus, il y a la fameuse parole de l'Évangile qui dit, pour rentrer au paradis, pour un riche, c'est aussi dur qu'un chameau dans le trou d'une aiguille. Ah ben là, si Jésus a dit ça, Sylvain, c'est indéfendable. Ça veut dire que les riches peuvent pas aller au paradis. Ils l'ont totalement mal interprété. Quand je suis allé à Jérusalem, j'ai compris. Le trou d'une aiguille, là, on pense à une aiguille à tricoter, là, bon, ben évidemment qu'un chameau, ça rentre pas là-dedans. Donc, c'est impossible pour un riche de rentrer au paradis. C'est faux. Le trou d'une aiguille, c'est une expression qui s'applique au mur, l'enceinte qui entoure Jérusalem. Il y a des genres de tours de guet. OK? Pour surveiller les envahisseurs éventuels. Alors ça, puis le reste, tout est fermé, il y a des murailles. Sauf qu'à la base de la tour d'observation, il y a une entrée. Et on l'appelle comment, cette entrée-là? C'est pas tout à fait haut, là. C'est quelques pieds, là. On l'appelle le trou de l'aiguille, parce que la tour, ça ressemble à une aiguille avec un trou à la base. Et le chameau, là, il passe. Faut juste qu'il se baisse. C'est dur de rentrer le chameau dans le trou d'aiguille, dans l'enceinte des murs de Jérusalem. Ce que Jésus a dit, c'est qu'il y avait des tentations et que c'était difficile pour les riches de rentrer au paradis. Mais nos curés l'ont très mal interprété.
Peut-être pour ça maintenant. Alors,
voilà pour la défense de Jésus.
Il fallait bien qu'on parle de manifestation tantôt. Je pense que le prochain extrait va t'intéresser. Madame Goldwater, elle est avocate, donc elle a une espèce de responsabilité d'image envers son ordre professionnel qui est le barreau. Elle pense que le barreau est trop restrictif par rapport à la liberté d'expression des avocats. Par contre, de l'autre côté, elle a une opinion très claire sur les avocats qui participent à des manifestations ou de la désobéissance civile. On écoute.
On a beaucoup de contraintes par rapport à notre liberté d'expression, même à un point que je déplore. Le problème de l'autre côté, c'est que nous sommes dans une position privilégiée pour pouvoir critiquer beaucoup de choses qu'on connaît et qu'on prend au sein de la société, mais le barreau tient toujours à ce qu'on se taise. Est-ce qu'on parle pas? Quand j'ai de quoi critiquer dans une loi, ben, premièrement, avant de parler, je vais l'attaquer devant les tribunaux. Mm-hmm. Moi, je fais pas des émeutes, je fais peut-être pas des manifestations dans la rue. Puis il y a beaucoup d'avocats qui vont participer à des manifs,
ouais.
Et que je trouve que c'est très inélégant. J'ai vu des avocats en tour, j'ai rabat en faisant des manifestations dans la rue parce qu'ils sont pas en accord avec la loi, puis ils enfreignent ainsi la loi. Et moi, c'est pas ma façon de faire. Quand j'aime pas ça, je me présente devant les tribunaux. Si j'aime pas une loi.
C'est exactement ce que tu disais tantôt, en fait.
Il y a déjà des outils pour contester des lois.
Ben
voyons
oui.
Donc.
Puis les avocats sont les mieux placés pour le faire.
Les tribunaux puis le Parlement.
On va aller dans le passé, Mme Goldwater, ouais. Un petit peu. Il y a une information que vous savez peut-être pas. Les parents de Meg Goldwater ont toute une histoire, surtout sa mère. C'était deux avocats. Après la naissance de Meg Goldwater, sa mère a eu une aventure avec un avocat qui s'appelait Philippe Casgrain, qui était marié avec Claire Kirkland Casgrain à l'époque, qui est la première femme élue à l'Assemblée nationale. Le nom vous dit peut-être quelque chose. Elle a fait l'histoire.
Oui.
Alors, je vous mets en contexte pour que vous puissiez bien comprendre le prochain extrait où elle nous parle de l'histoire de ses parents.
Mon père était un soldat de l'armée canadienne pendant la guerre. Il a rencontré ma mère en Europe. Ils se sont mariés en Angleterre. Elle était une Parisienne juive qui était cachée par des sœurs grises pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont mariés comme beaucoup se sont mariés tout de suite après la guerre. Il avait 23 ans, elle avait 17 ans. Ils sont venus vivre ici. C'était un choc pour une jeune Parisienne de venir ici, un Canada qui n'était pas... disons, au même niveau de sophistication de la ville qu'elle a quittée, mais elle s'est résignée à sa vie ici, j'ai l'impression. Et à un moment donné, ils ont décidé de retourner aux études. Et ni un ni l'autre avait une éducation. Mon père n'avait même pas son secondaire. Donc, ils ont fait une équivalence et ils sont allés à McGill faire un bac. Et par la suite, ils ont débuté des études en droit. Et puis, elle faisait son stage lorsqu'elle a commencé une aventure avec Philippe Casgrain, qui était connu à l'époque. Elle est tombée enceinte de ses œuvres. Elle s'est avortée. Un avortement à cette époque, en 1963, était illégal au Québec et au Canada. Ce qu'on m'avait dit quand j'étais enfant, c'est qu'elle a souffert d'une hémorragie par la suite et qu'elle décédait naturellement. Mais c'était pas la vérité. La vérité était qu'elle est tombée en dépression puis elle s'est suicidée de la peine d'avoir perdu l'enfant. Qui sait si même ça, c'est vrai. Peut-être elle est tombée en dépression parce qu'elle était encore avec mon père et voulait pas être avec lui. Qui peut savoir? Elle est morte, il est mort. Alors jamais on me parlait pas de ma mère après sa mort.
Est-ce que M. Casgrain voulait avoir cet enfant-là avec votre mère? Lui, est-ce qu'il était en amour aussi?
Il était marié.
Fait qu'il y avait aucune chance qu'ils soient ensemble de toute façon, ces deux-là.
Certain. Il était marié à Claire Kirkland Casgrain, si on se rappelle. Oui. Mais les deux sont morts, donc je me sens très à l'aise d'en parler, ça.
Quelle époque, hein?
Quelle époque, effectivement.
Ouais, c'est difficile.
Et là, vous avez compris que c'est pas ce qu'elle a... En fait, on lui a menti sur la véritable cause du décès de sa mère. Là, ouais. Je lui ai demandé comment elle a fini par apprendre le suicide de sa mère. Est-ce que c'est son père qui lui a dit, écoutez bien ça?
C'est pas lui qui me l'a dit, c'est un juge, le regretté juge Henry Steinberg. J'avais 28 ans, waouh, je me rappelle, j'avais 28 ans, j'ai plaidé une requête. Mais là, il a voulu que je reste là, c'était presque 12h30, et qu'il me parle. Alors, j'ai dit d'accord, oui, monsieur le juge, puis il m'a raconté, je vous ai écouté parler, et je tiens à vous dire, maître Gourdouette, j'ai connu vos parents. Et lorsque vous parlez, peut-être beaucoup de gens disent que vous ressemblez à votre maman, mais quand vous plaidez, vous avez les gestes de votre père. C'est certes, vous avez l'intellect de votre maman, mais vos gestes physiques sont tellement de votre père, ça m'a donné des frissons. Alors, on a commencé à parler comme ça, j'asais comme ça, et je voulais savoir. Je dis, je tiens à savoir quelque chose. Comment ma mère est décédée? Et c'est lui qui me l'a dit.
C'est comme à 28 ans, vous l'avez appris d'un juge que vous connaissiez pas.
Au milieu de ma journée de travail.
Puis c'était quoi votre réaction?
Je suis tombée en dépression. C'est comme ça que j'ai commencé à voir mon psychanalyste. Je le voyais pendant 3 ans parce que j'en pouvais pas.
Elle pensait que sa mère était morte de façon naturelle et elle apprend qu'elle a eu une aventure, elle est tombée enceinte, elle a avorté dans le contexte de ces années-là, puis ouais. Finalement, dépression et suicide. C'est ça, là, ouais. Si je résume.
À 28 ans, midi et demi, milieu histoire. D'une journée de travail, c'est un juge qu'elle connaît pas qui lui apprend que sa mère s'est suicidée puis qu'on lui a menti. Et Meg Goldwater a une enfance plutôt difficile. Moi, j'avais lu sa biographie. Fait que je savais un petit peu où l'enligner avec ça. Oui. Vous la lirez, c'est fort intéressant. Son père prenait plus ou moins soin d'elle à l'époque. Et une chose qu'elle s'est toujours demandé, la DPJ existait à l'époque. Elle dit, comment ça se fait que la DPJ a jamais mis les pieds dans ma maison. On l'écoute.
Mon opinion maintenant, c'est que mon père s'en est jamais remis de la perte de ma mère. C'est mon impression subjective maintenant à l'âge que j'ai, parce qu'il est retourné vivre dans la maison familiale à Outremont, qui était une maison dans un grave état de délabrement. C'était censé être lui ou ma grand-mère qui devait m'élever, mais rien de ça est vrai. C'est moi que je me suis élevée moi-même. Sérieusement, c'est triste à dire, mais c'est ça. Et je me rappelle, même quand j'étais ado, je me suis dit, mais pourquoi le DPJ n'est jamais intervenu ici? Pourquoi j'étais laissée juste comme ça? Personne ne me lavait. Il n'y avait personne pour me laver le corps ou laver mes cheveux ou laver mes vêtements. Oui. J'avais même appris que une de mes tantes avait dit à mon père de me donner en adoption. Elle est encore en vie aujourd'hui, hein? Mais vous savez pourquoi? Les vampires et les zombies meurent jamais parce qu'ils sont pas vraiment des êtres vivants. Moi, je dis ça à ma tante en pleine face. Je dis, vous n'êtes pas un être humain, vous êtes un vampire ou une sorcière ou quoi, vous n'êtes pas en vie. C'est pour ça que vous ne mourrez jamais.
Qu'est-ce qu'elle dit quand vous dites ça?
Oh, Anne France. C'est une affaire du genre. Qu'elle vit jusqu'à l'âge de 120 ans dans son état de undead.
Elle est capable d'en rire ou tout ça, mais il y a de quoi de triste là-dedans.
C'est parce qu'elle dit que ça ne tentait pas d'intervenir chez nous à place de dire donne-moi en adoption, ça ne vous tentait pas de prendre soin de moi, vous, ma famille.
Il
n'y
a personne pour la laver?
Non.
Les cheveux, tout ça. Les vêtements, pas les cheveux. On peut comprendre comment ça. Ouf.
Puis la DPJ existait à l'époque. Tu sais, des fois, ils interviennent dans des familles où ça n'a pas tellement un rapport, la DPJ. Il faut croire qu'il n'avait peut-être échappé une. Un de mes moments d'entrevue qui m'a le plus touché, Meg Goldwater fait du droit de la famille. Tu as peut-être des amis autour de toi qui ont étudié en droit. Moi, la première question que je leur posais, c'est hey, tu t'en vas dans quelle discipline? Criminelle? familial. Puis il disait tout le temps, non, pas familial, c'est trop prenant émotionnellement. Moi, je me suis fait dire ça très, très souvent par des étudiants en droit. Je veux pas, c'est trop prenant. J'ai dit à Maître Goldwater, vous savez, c'est quoi la peine? Hein? Vous avez perdu vos parents, vous avez vécu des peines d'amour, elle a été mariée trois fois. Là, vous avez des gens devant vous qui sont brisés. Comment vous faites pour leur dire, hey, même si t'es brisé, il faut que tu sois rationnel quand même dans tes décisions, sachant c'est quoi un divorce puis comment ça fait mal? Et Maître Goldwater est devenue très émotive. Elle s'est même mise à pleurer et voici sa réponse.
Et drôlement, vous arrivez même à me faire pleurer. Mais là, c'est où je trouve que j'ai quelque chose à offrir. Parce que je sais qu'est-ce que c'est la peine. J'ai perdu mes parents. J'ai eu une vie mouvementée. Et j'ai le don de pouvoir conforter et comme un père et comme une maman. Il y a plein de clients que j'ai vraiment embrassés. Pas dans le double sens en français. Je vais te donner un câlin. Ouais. Pour les tenir dans mes mains, pour recevoir leurs larmes, pour pleurer avec eux. Parce que je sens leur peine et je sais que je peux les rendre plus forts. Je sais que je peux les reconforter. Je sais que je peux les aider à voir la vie différemment, à retrouver un espoir pour l'avenir. C'est entièrement ma force. Certes, si j'étais pas devenue avocate, probablement je serais devenue psychologue. Je vois qu'est-ce que l'amertume peut créer. Je vois le dommage qui est créé à un enfant lorsque les parents se chicanent, parce que eux, ils vivent pleinement le plaisir de leur chicane. Ils se fâchent, ils sont forts, faibles, ils pleurent, ils crient, etc. Mais c'est qui à la fin qui est rendu un... Moi, je fais l'image de trembler presque sur le bord du suicide, mais l'enfant. Alors, à force d'apprendre toutes ces choses, moi, même parfois, je souhaite à certaines personnes, je vais dire à certains professionnels, vous devrez venir passer une semaine à mon cabinet. Vous allez mieux comprendre comment gérer votre vie.
Allez faire un tour au Palais de justice les 19, 20 et 21 décembre prochains. Trois jours consécutifs où les parents divorcés se chicanent non-stop devant le juge pour savoir qui va avoir l'enfant à Noël pour le jour de l'an.
Ça fait mal, ça. Ça fait mal.
Et les enfants témoignent, là. Souvent, les enfants sont appelés à témoigner, à se prononcer, puis tu veux être avec le père ou avec la mère, puis bon.
Ouais.
Trois journées non-stop.
C'est vraiment
c'est toujours
vraiment
ça à chaque année.
Puis elle dit bien, hein, les parents, eux autres, là, sont contents d'envoyer promener l'autre. Là. Ils veulent le saigner là, jusqu'au bout puis le faire suer. Mais au travers de ça, il y a un enfant. Il ne faut pas l'oublier tout le temps. On va parler des chiens, parce que je sais que ça vous intéresse.
Ben oui, il faut. La cause des chiens, là, ça, je ne suis pas trop d'accord avec elle. Je trouve qu'elle va loin, des fois.
Ben, ça va peut-être te surprendre, ces réponses. Ouais. Premièrement, je lui ai demandé, des gens vous accusent de mettre la vie d'un chien avant celle d'un humain. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Ce n'est jamais ça. C'est pas vrai. Il y a une situation en général. Admettons, vous voyez un chien dans la rue ou même un chien de vous qui se met à attaquer un autre être humain ou un autre chien ou un chat ou un lapin ou parce que toutes les vies valent quelque chose. Et là, on est au niveau de l'urgence vie ou mort. Alors, c'est certain que je vais tout faire pour que l'agresseur soit mis sous contrôle. Alors, et j'ai toujours dit, j'ai toujours pensé me distinguer à tort ou à raison pour le bien ou le mal de ceux qui sont super extrêmes de PETA ou d'autres qui pensent que la vie d'un être humain est nulle et que ce sont juste des animaux qui ont droit de vivre sur la planète. Et ça me frustre tellement parce qu'il me semble qu'on est un animal comme tout autre animal. Est-ce qu'on est en droit de survivre aussi à l'eau? Alors, j'ai jamais épousé ce genre de pensée. Au contraire. Mais la réalité, normalement, quelque chose arrive entre deux chiens ou entre chiens et être humain. Alors là, on arrive après le coup. Après le coup, qu'est-ce qu'on va faire? Alors pour moi, ça devrait être très simple. On évalue la dangerosité d'un animal. Si l'animal est trop dangereux pour vivre en ville, je me lutte pour ça. On devrait être capable de prendre l'animal qui est trop dangereux, le placer dans un refuge avec des gens expérimentés qui peuvent là garder l'animal jusqu'à la fin de ses jours. Ce n'est pas un procès qu'on fait de l'animal. L'animal n'a pas notre jugement, notre sens de moralité pour savoir s'il fait bien ou mal.
Bon, je suis pas d'accord avec elle. Vous savez qu'elle a défendu le pitbull qui a tué une femme à Montréal.
Oui.
Elle l'a défendu.
Qui a attaqué à Montréal-Nord un enfant. Là. C'était un pitbull qui n'avait pas dû se retrouver dans cette famille-là. Puis il y avait des enfants qui étaient impliqués.
C'est pas lui qui a tué.
C'est pas Mme Vadnais.
C'est un autre cas. Okay.
C'est un autre
bon,
cas. Il n'y avait pas eu de décès.
Elle a défendu un pitbull qui a attaqué. Et je suis pas d'accord avec elle, mais sais-tu quoi? Compte tenu de tout ce que j'ai entendu tantôt de ton entrevue, je la comprends mieux. Je pense que certaines personnes comme Maître Goldwater ont peut-être des raisons d'être très, très, très déçues de l'être humain. Et c'est peut-être pour ça qu'ils en sont venus avoir plus confiance aux animaux. Vous avez vu sa vie, elle passe sa vie au tribunal à avoir des parents chicanés avec les enfants. Elle a été, elle a un père qui l'a pratiquement pas élevé, elle a été seule. Sa mère, bon, c'est pas de sa faute, mais qui est décédée dans des circonstances tragiques. Il est possible que Maître Goldwater, comme certaines autres personnes, qu'elle soit plus portée à aimer les chiens parfois.
Mais elle a vraiment insisté sur le fait que la vie d'un enfant vaut plus que, ou d'un être humain vaut plus que celle d'un animal. Et on a défait certains mythes. Certaines personnes qui disent que les chiens de type pitbull sont plus dangereux qu'une autre race, entre autres parce que leur mâchoire serait différente, parce qu'ils sont génétiquement faits pour ne pas lâcher leur proie lorsqu'ils attrapent quelque chose. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Premièrement, scientifique, ça c'est de la pure mythologie. Premièrement, ce n'est pas vrai que le mâchoire d'un chien de type pitbull est différent du mâchoire de quelconque autre chien. C'est juste pas vrai. Puis il y a plein de races, d'autres races de chiens, de races pures, qui peuvent mordre avec plus de force que le chien de type pitbull, qui est un chien très variable. C'est très variable parce qu'on parle pas d'une race pure, mais il mélange toutes sortes de choses. Alors ça, déjà, c'est pas vrai. Une chose qui est vraie, c'est les chiens de type terrier. Et puis, il y a des chiens de type pitbull qui ont du sang des terriers. Sont des gens qui peuvent vraiment s'attacher à leur proie. Si on n'a jamais vu un tout petit terrier comme un Yorkie ou un Wheaton qui va chasser un rat ou un écureuil, c'est le genre de chien qui n'aime pas lâcher prise. Donc, c'est pas vrai leur mâchoire est plus forte. C'est pas vrai qu'ils vont maintenir la morsure plus que notre chien. La réalité qu'il faut accepter, c'est qu'il y a un danger de tous les chiens.
Elle a raison sur la mâchoire du pitbull. Elle oublie de dire que malheureusement, c'est pas de la faute des chiens, là, mais les pitbulls, c'est une race qui a été croisée puis qui a été faite pour combattre. C'est triste. C'est le mot d'ailleurs pitbull vient de là. C'est des chiens qui se battaient contre des taureaux. Et ça a été mixé au niveau des gènes pour les rendre agressifs. Et ils ont ça en eux. Pas toutes, mais beaucoup. Sur la mâchoire, je donne raison. Sur la génétique, tout ça.
Parce que c'est variable.
Mais il y a un profil.
Là, je vais te surprendre. Je pense que je vais surprendre plusieurs auditeurs. Certains vont peut-être penser que Meg Goldwater garderait elle-même, personnellement, un chien dangereux chez elle avant de s'en débarrasser et qu'elle va le défendre.
Pas nécessairement, mais ça se pourrait. On pourrait croire ça.
Dans les faits, Maître Goldwater elle-même a déjà fait euthanasier un de ses propres chiens parce qu'il avait mordu. On l'écoute.
J'avais une fois un chien bouvier de Flandre qui m'a mordu le pied et c'était un chien autrement pacifique, mais au milieu de la nuit, je descendais du lit, j'ai mis le pied sur sa hanche. Et moi, je pèse pas 100 livres, il faut savoir. Certes, je lui ai fait mal. Il a attrapé mon pied. Il n'a pas fait un mouvement pour secouer ou rien. Donc vraiment, c'était pas genre une réaction de prédateur. C'était vraiment juste comme pour punir le pied. Mais parce qu'il pesait 150 livres, il m'a mordu jusqu'à l'os et je devais entrer à l'hôpital. 6 mois plus tard, j'ai dû quand même l'euthanasier, pas parce qu'il m'a mordu, mais parce qu'il a mordu mon ex-mari.
Donc, vous avez été capable de prendre cette décision?
Oh my God, je pleurais après, j'avais des sentiments de culpabilité que vous pouvez pas imaginer. Néanmoins, je ne regrette pas la décision. Parfois, nos décisions sont difficiles et peuvent nous faire souffrir, mais j'ai pris cette décision parce que je me suis dit, c'est une chose qui m'a mordu moi, ça, si je veux supporter le risque, ça c'est moi. Mais qu'il a mordu le père de mes enfants, j'ai le rappel de cette journée-là, ça va me faire pleurer encore. Imagine s'il avait été blessé plus profondément et c'est le père de mes enfants, c'est pas parce que je l'ai divorcé qu'il est moins un membre de ma famille. Mm-hmm. Et c'est moi qui a créé ce risque. Je peux pas mettre la vie des gens en risque. C'est pas un petit pitbull de 60 livres, ça. Ça, c'est un chien de 150 livres. J'ai pas trouvé un refuge à l'époque. Ça remonte très loin. Et puis, c'est à l'époque, vous savez, l'idée aujourd'hui qu'il y a des refuges, on ne tue plus aucun animal, ça, c'est vraiment de l'époque moderne. Des choses ont changé. Il n'y a plus de sac en plastique à l'épicerie. Tout le monde porte une bouteille pour l'eau au lieu d'acheter des bouteilles qu'on jette. Et maintenant, il y a des refuges, on ne tue pas l'animal. Les mœurs ont changé. Toujours un niveau très favorable. Moi, je trouve que la société devient de plus en plus civilisée à tous les jours. En dépit de ce que les gens pensent, jamais je mettrai la vie d'un être humain en danger. C'est inimaginable pour moi. Mais quand il y a une alternative, faut utiliser cette alternative.
C'est bon, elle apparaît beaucoup moins radicale, peut-être, qu'on aurait pu le croire. Je trouve ça très, très bon.
Elle s'est différenciée de PETA aussi, tantôt.
Oui. En même temps, pourquoi vous achetez ces chiens-là? En tout cas.
Ah, mais elle a répondu aussi à cette question-là.
Pourquoi un chien de 150 livres? Il y a à peu près 250 à 300 races de chiens.
Mais pitbull, c'est
pourquoi
pas 150.
Pourquoi vous décidez de prendre cette race-là? Ça vous a pas été imposé, ça tombe pas du ciel, c'est pas, il y a une loterie. Vous avez pris la décision de faire peur au monde. Pourquoi?
Mais j'ai posé cette question-là aussi sur le type de personnes qui achètent les chiens de type dangereux. M'a dit, c'est facile de faire la distinction sur des gens qui veulent faire peur ou qui ont un casier plus criminel. M'a dit, un chien en général, pure race, Labrador, Golden Retriever, Berger berger allemand. N'importe quoi. C'est des chiens de plus de 1000 $. Le pitbull, là, tu peux en avoir un pour un moins de 100 $. Tu peux avoir ça. C'est des chiens qui sont pas des chiens pure race. Alors, ça coûte vraiment pas cher.
Non, mais il y en a en bas de 100 piastres qui sont pas dangereux.
Pas tant que ça.
Ben oui.
Pas tant. Je veux dire, des chiens, mais c'est des chiens bâtards. Oui, mais c'est des bâtards. Oui, oui. Mais il y a un risque avec le fait d'acheter un chien bâtard aussi. Il y a un gros risque à ça.
Non, mais c'est pas le même risque que le pitbull. En tout cas.
Non. Mais bref, j'ai posé la dernière question, ça vous fait rire. Évidemment, Meg Goldwater, si ses chiens sont malades, elle va les faire soigner au vétérinaire. Il n'y a pas question de dire l'opération coûte 500 $, je le fais euthanasier. Pas quand la mort peut être évitée.
Ouais.
Alors, j'ai posé la question sur un chien, Meg Goldwater. Pas sur l'ensemble de vos animaux, là, parce qu'on en a eu plusieurs. Oui. Sur un seul chien. Combien avez-vous dépensé au maximum? On l'écoute.
Quelqu'un a dû avoir raconté cette histoire. Sandrine, c'est terrible à dire. Et s'il vous plaît, les gens, le public, ne rouspétez pas, faites pas appel au barreau, soyez pas fâchés contre moi, mais j'ai dépensé plus de 100 000 $ pour sauver la vie de Sandrine. Et j'étais pas capable de faire autre chose.
100 000 $. Mais vous avez les moyens, vous êtes pas endetté pour ça.
Oh, je me suis endetté.
Ah oui?
Hey, ça manque pas de moyens, mais sortir 100 000, ça... J'ai ouvert une ligne de crédit juste pour ça et ça m'a pris du temps de le rembourser. Puis
ça, tu vois, je juge tellement moins ça qu'avoir un pitbull. À 90 $, quand tu sais très bien que dès que tu sors de chez vous, tes voisins ont peur, du monde ont peur, il y a du monde partout, tu le fais pareil. Je m'en sacre, c'est mon pitbull. Moi, je l'aime, puis je suis bien. Ça, c'est son cash, elle fait ce qu'elle veut avec.
Oui.
Non, je ne juge pas ça du tout.
Mais elle en a un pitbull, Anne-France Goldwater, en passant, si ça vous intéresse, parce qu'elle l'a dit avant de prendre position sur ce type de chien-là, je voulais en avoir un moi-même, puis voir comment ça se passe. Puis elle est allée chercher un chien dans un refuge qui est paralysé des pattes arrière. Fait qu'évidemment, il lui coûte cher, ce chien-là. Il y a des chaises roulantes, un petit peu, là, qui sont accrochées à son bassin.
Ben lui, il est moins dangereux, là.
Lui, tu pourrais l'avoir chez vous, ce serait pas grave.
Ouais, ça,
mais elle dit, avec sa chaise roulante, il va plus vite que n'importe quel chien sur ses quatre pattes, par exemple.
Merci beaucoup à Maître Goldwater, en passant, pour s'être prêté à l'exercice. C'est fort intéressant. On connaît mieux les gens. Tu sais, des fois, à la TV, on voit des sorties spectaculaires, des paroles. Tu sais, j'aime ça parce que souvent, en connaissant le passé historique, familial ou autre, tu comprends mieux les personnages.
Oui, vraiment. Puis juste pour répondre à ceux qui disent qu'elle a dit au début de l'entrevue qu'elle prend pas d'alcool. Alors, effectivement, j'ai pris le thé avec Maître Goldwater.
Oui, alors ça a été...
J'y ai dit, vous êtes allé au Recette Pompette avec Eric Salvin et vous avez bu de l'alcool à ce moment-là. Elle a dit oui, je l'ai fait pour faire plaisir à Eric, puis j'ai été malade pendant 6 heures après.